Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Nous sommes en guerre.
On se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision.
Nous sommes en guerre.
Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement.
Nous sommes en guerre.
Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse.
Nous sommes en guerre.
Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien.
Nous sommes en guerre.
Ce qu'on constate depuis quelques jours, c'est peut-être le début d'un ralentissement de la progression de l'épidémie.
Nous sommes en guerre.
Bon, si la Belgique émet un peu plus de CO2 à cause du gaz, bah, ça se compense ailleurs en Europe. C'est quand même un argument qui est un peu... qui est tiré par les cheveux, non ?
Je suis pas informée de ça.
Nous sommes en guerre.
Eh bien oui, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et adieu que la guerre est jolie, disent certains. Ah non, non, elle est difficile. En ce moment, vous voyez ce qui se passe. On annonce déjà, attendez, on était à peine dans la 5e vague, qu'on annonce la 6e vague pour janvier. Martin Hirsch, le patron de l'APHP, les hôpitaux de Paris, et face au variant Omicron. Alors on ne comprend pas, Omicron, il paraît que c'était léger, qu'il n'y avait pas de mort, pas de létalité, mais si. Vous allez voir, c'est compliqué. On va en parler avec Philippe Poindron, qui est virologue, qui est professeur honoraire de virologie à l'université de Strasbourg. Et on va essayer de moindre avec lui. Et on sait qu'on va y arriver, les points sur les i. Ensuite, nous allons recevoir Jason Miller. Alors, vous ne savez pas qui est Jason Miller. Jason Miller est un conseiller de Trump. Il a participé à la campagne de Trump en 2016 et en 2020. Et il a fondé une nouvelle plateforme, un nouveau réseau social, Gettr. On va en parler avec lui et savoir un peu ce qui se passe dans les Amériques. Vous savez qu'en 2022, il n'y a pas que les élections françaises, il y a les élections de le milieu du terme américain pour le Sénat et la Chambre des représentants. Ça nous intéresse quand même aussi. Et après les perles du jour, etc., nous allons recevoir Frédéric Charpier, qui a fait une enquête très intéressante sur l'IGPN. C'est quoi l'IGPN ? Mais vous le savez, c'est la police des polices, celle qui surveille les policiers, qui les sanctionne quelquefois, qui les blanchit d'autres fois. Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au moment où effectivement les tensions sont très grandes, comme on le sait, entre policiers et délinquants ? On en parle.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Il paraîtrait que les hôpitaux sont saturés. Mais de qui ? Alors, certains disent uniquement les non-vaccinés du Covid. D'autres disent pas du tout. Nous avons de plus en plus de doubles vaccinés du Covid et même de triples, 50, 54%, 80%. La guerre des chiffres, alors, elle a lieu complètement. Et puis, les vagues. Combien de vagues ? 6e vague, 7e vague, 8e bientôt, combien de doses ? Où en est-on ? Et le variant Omicron. Et oui, le dernier de la liste, enfin le dernier, disons le plus récent, ne disons pas le dernier, ne nous avançons pas. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, on va en parler et on va essayer d'éclaircir le mieux possible.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, qu'on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main.
La célèbre chanson des infirmières de Valence, l'hôpital, effectivement, mais l'hôpital, il y a le fournisseur, il y a le contamineur de ceux qui viennent à l'hôpital et qui, j'espère, en sortent. Ce fameux virus. Alors, on en est après le variant Delta dont on a parlé. Alors, il paraît que le variant Delta, ça va mieux, il paraît. Et puis maintenant, on est le variant Omicron. Et en même temps, on nous annonce, Martin Hirsch, que la 6e vague arrive en janvier. Alors on voudrait peut-être, dans cette espèce de flou qui n'est pas du tout artistique, essayer de comprendre. Et nous avons demandé, et on est heureux de l'avoir au bout du fil, comme on dit, le professeur Philippe Poindron, virologue et professeur honoraire de virologie à l'Université de Strasbourg. Bonjour Philippe Poindron.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Bonjour monsieur Poindron. Écoutez, alors, vraiment, il se passe quand on n'est pas dans homme de l'art ou femme de l'art, on essaye de comprendre, on essaye de suivre, on essaye de s'adapter, on essaye de suivre les règles. Alors, on apprend que, d'après les données danoises Omicron, il y aurait, avec le variant Omicron, 8% de contaminés chez les triples vaccinés, 5,5% chez les doubles vaccinés, 1,2% chez les non vaccinés. Alors Omicron, qui fait quoi? Une sélection de vaccinés, et puis cette vague, et puis cette cinquième vague, et puis la quatrième dose qui arrive, parce que certains disent non, on n'y est pas du tout, mais le professeur Delfrécy, pour ne parler que de lui, le président du conseil scientifique, eh bien, il a déjà dit, préparez-vous pour la quatrième vague, sans parler des anticorps, etc. Alors, Philippe Poindron, un peu de clarté dans ce tunnel.
Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu de clarté dans ce tunnel. Alors, le variant Omicron a donc fait son apparition en Afrique du Sud,
oui.
Et il est très clair qu'il est extrêmement contagieux.
Mmh.
Par ailleurs, pour autant que j'ai pu faire un petit peu de bibliographie, il ne semble pas qu'il donne, en tout cas pour l'instant, des formes beaucoup plus graves que les variants antérieurs. Donc ce serait plutôt un virus qui donne des formes plutôt bénignes. Par ailleurs, il est clair que les gens qui ont reçu deux ou trois doses de vaccins ne sont pas entièrement protégés contre ce variant. Et ça dure très très compréhensible, c'est un variant, un mutant en fait, qui présente un très très grand nombre de mutations sur tous les gènes, et surtout sur cette fameuse protéine de pointe, vous savez, celle qui hérisse la surface du virus.
C'est la
C'est la spike. C'est ça, exactement, la protéine spike. Il y a quand même 32 mutations, c'est considérable, et il est bien évident, on peut tout à fait le comprendre, que les anticorps qui sont dirigés contre des virus antérieurs soient moins efficaces contre ce nouveau virus. Donc effectivement, il faut s'attendre à ce... Mais on n'en sait rien, hein, même s'il est très contagieux, il faut s'attendre quand même à ce qu'il se répande. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce virus, lorsqu'il déclenche, pour autant qu'on le sache à l'heure actuelle, une infection chez les gens ne provoque pas de perte de goût et de perte d'odorat. Ça, c'est quand même une bonne chose.
C'est quand même mieux que rien. C'est même bien.
C'est quand même mieux que rien. Il semblerait que pour l'instant, en tous les cas, il donne une sorte de gros rhume avec des maux de tête. Et les manifestations cliniques ne sont pas exactement identiques aux manifestations cliniques qu'on a observées avec les virus antérieurs. Donc je crois qu'il ne faut pas s'affoler.
Juste, professeur Poindron, est-ce que ça ne veut pas dire, et encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur dans ma question, dans mes propos, est-ce que ça ne veut pas dire, en fait, que quelque part, il faudra un vaccin adapté à chaque variant,
Écoutez, on est exactement dans la même situation.
Oui.
En tous les cas, il faut changer ce qui doit être changé. Mais on est exactement dans la même situation qu'avec le virus de la grippe. Il est très très clair qu'on va se trouver avec des variants qui vont émerger, tout simplement parce que les gens, quand même beaucoup de gens sont vaccinés. Les gens qui sont vaccinés, s'ils sont contaminés parce qu'ils peuvent être contaminés, vont laisser échapper des virus qui échappent à la neutralisation. Donc on va se retrouver dans la situation, exactement dans la situation du virus de la grippe. Alors je pense...
Non, je vous en prie. Mais est-ce que ça veut dire, parce qu'ils peuvent, être contaminés et eux-mêmes contaminés, les vaccinés, on le sait.
Bien sûr. Et ils peuvent être contaminés. Donc il semblerait que le vaccin, les vaccins, je mets des guillemets à vaccin, protège beaucoup moins bien de la contamination. En revanche, il semblerait aussi, mais là aussi il faut mettre du conditionnel, qu'il diminue quand même nettement les formes graves.
Oui.
Donc il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain.
Bien sûr. Voilà. Ça, on l'a dit et on le redit, et vous faites bien de le redire. Il n'empêche quand même, sans revenir à la polémique sur les traitements ou pas, ce qu'on ne comprend pas, franchement, et je parle vraiment, en huron, ou en tout cas en non-connaisseur, mais quand même, nous sommes tous concernés. Est-ce que cette espèce de volonté de dire, et on a vu avec Olivier Véran, qui a encore renforcé, effectivement, sur les traitements, vous savez, les traitements précoces et autres. Est-ce qu'on ne pouvait pas dire quand même qu'on peut avoir une synergie entre les antibiotiques ou certains antibiotiques et certains vaccins? Pourquoi opposer les uns aux autres?
Écoutez, tous les résultats que l'on peut avoir et qui ont fait état de l'usage soit de l'hydroxychloroquine, soit de l'ivermectine, notamment en Inde, montre que si le traitement est précoce,
oui, bien sûr,
c'est ça qui est très important, il y a une diminution manifeste des infections et des cas graves. Alors moi, je ne comprends pas du tout cet acharnement contre les traitements précoces. Mais il y a d'ailleurs des antibiotiques comme l'azithromycine ou la doxycycline qui sont également antivirales. Et ça a été montré, ça. Hein,
bien sûr.
Ça a été tout à fait démontré. Alors maintenant, bien entendu, on va nous sortir, Pfizer ou bien Merck, des molécules qui coûtent 10 fois ou 15 fois plus cher, et qui seraient actives. Mais permettez-moi de vous dire que c'est proprement un scandale, dans la mesure où on a des éléments qui marchent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ce livre très intéressant d'une auteure, une autrice chinoise qui s'appelle Fang Fang, et qui montre que lorsque elle a créé un journal qui s'appelle Wuhan, ville isolée, et c'est très très intéressant. C'est ça. Et elle montre que lorsque l'on a pris en soins, en charge les gens très tôt, elle ne donne pas de détails, très tôt lors de l'infection, eh bien la maladie est beaucoup moins grave. Donc est très clair qu'il est important de faire du soin dès les premiers symptômes.
Non mais c'est ça, professeur Poindron, ce qui est étonnant dans toute cette histoire, c'est que je rappelle quand même que la devise du médecin, c'est « laissons-les prescrire », hein, médecin traitant, qu'on a effectivement comme une espèce de chape de plomb, dire « oh là là, et je ne rentre pas dans les polémiques, Raoult ou compagnie », c'est pas le problème. Le problème, c'est on dit « non, non, il n'y a rien, ne vous traitez pas, attendez le vaccin ou... ». Et ça, c'est quand même étonnant.
De mon point de vue, c'est proprement scandaleux. Ouais. Je pense qu'on a maintenant des éléments scientifiques. Je pense à l'azithromycine. Hein.
Oui.
On a maintenant étudié l'interaction de l'azithromycine avec certains composants viraux, et on voit que ça inhibe leur fonctionnement. Donc on a des éléments scientifiques qui montrent qu'effectivement, des traitements précoces, médicamenteux, peu coûteux, sont parfaitement efficaces. Alors on préfère maintenant mettre en avant des molécules extrêmement coûteuses. Alors Pfizer a mis au point une molécule qui, Merck une molécule qui. C'est très intéressant parce que Merck est en train de désinguer l'ivermectine, alors qu'elle a des intérêts, elle a des brevets sur l'ivermectine pour promouvoir sa nouvelle molécule.
C'est ce qu'on appelle, cher professeur, l'excellence de la marge de bénéfice.
Exactement. Alors, si vous voulez, moi, je ne veux pas être complotiste. Non, j'essaie de faire de la science.
Vous n'êtes pas complotiste, là, oui.
J'essaie de voir les choses. J'ai lu, bien entendu, toutes les publications qui sont relatives à l'hydroxychloroquine et à l'ivermectine. Et je dis, je ne vois pas vraiment ce qui s'oppose à l'usage précoce. Je ne vois qu'un obstacle, c'est que si on dit que ça marche, à ce moment-là, les vaccins ne peuvent plus être utilisés.
Oui, c'est ça.
Ils sont en phase 3.
C'est ça, c'est que là. Oui, c'est-à-dire que, oui, ils sont en phase 3. Et l'AMM tombe, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché tombe s'il y a des traitements précoces qui marchent. C'est bien ça.
C'est une autorisation temporaire d'utilisation. C'est une ATU. C'est pas encore une autorisation de mise sur le marché. Exact. Alors, si on démontre qu'un autre traitement fonctionne, s'il est appliqué précocement, c'est toujours la même chose.
Bien sûr.
Qui suppose une détection précoce de la maladie, eh bien, à ce moment-là, on n'a plus de raison de prendre le vaccin. Tout ça est très simple à comprendre.
Hein. Et c'est fou parce qu'on se dit enfer et damnation, on ne va quand même pas remettre des traitements à 2 euros alors qu'on va avoir des traitements à 500 euros, c'est pas sérieux.
Ah ben, c'est pas sérieux, c'est exactement ça qui se passe. Hein. Ouais. Ceci étant dit, parce que moi je ne voudrais pas passer pour un anti-vaccin, je dis que les gens qui ont plus de 65 ans et dont le risque est quand même élevé, ils doivent se faire vacciner parce qu'il n'y a aucun doute qu'il y a une certaine efficacité. Vacciner avant, bon, entre 30 et 65 ans, on peut comprendre. Vacciner les enfants, c'est de la folie.
Oui, on est bien d'accord. C'est de la folie, hein, de vacciner les enfants, parce qu'on y est
complètement.
Ouais.
Je n'hésite pas à le dire. Hein.
Écoutez, c'est non, mais on va rester, on va voir ce qui va se passer avec ces sixièmes vagues, avec ce variant Omicron. En tout cas, merci, vous avez mis de la lumière dans le tunnel. Merci, Philippe Poindron.
Merci beaucoup, André Berkoff. Au revoir.
Merci beaucoup, Philippe Poindron. Passez une excellente journée, pardon. Et on a des bonnes nouvelles pour vous.
Joyeux Noël avec Sud Radio.
Et vous tous qui nous écoutez, on a en effet des bonnes nouvelles puisqu'il y a un sapin à Sud Radio, un sapin de Noël avec plusieurs cadeaux et des cadeaux, des beaux cadeaux avec notamment des simulations de chute libre, des livres, des CD dédicacés par Julien Doré, des sauts en parachute, du chocolat. Et vous nous appelez au 0826 300 300, ce sera évidemment au hasard et vous allez savoir dans un instant qui gagnera ce cadeau. André, donnez-moi un chiffre entre 1 et 20.
Eh bien, 18.
Ah, j'allais dire 6 pour la 6e vague, mais 18, 6 fois 3. Le 18e appel remportera donc ce cadeau. Vous nous appelez dans un instant et puis on va continuer cette émission avec Jason Miller, le fondateur du réseau social Getter.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, nous discutons aussi beaucoup. Et vous savez que nous avons à Sud Radio toutes les plateformes, les Twitter, les Facebook, les YouTube et compagnie. Et puis on discute beaucoup de ce qui se passe, des limites de chacun. Et voilà que arrivent des plateformes alternatives aussi qui essayent effectivement de peser sur la liberté d'expression. Et on a un communicant, un collaborateur, un conseiller de Trump qui est venu à Paris pour lancer Getter. Getter, un nouveau réseau social. Nous allons discuter avec Jason Miller de Getter, de Trump et de ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, parce que ce qui se passe aux États-Unis, vous le savez très très bien, c'est un cliché, mais c'est pas un cliché faux. On l'a vu pour le meilleur, le jazz, la musique, l'industrie, le cinéma, et pour le pire, le woke et la cancel culture. Donc, tout ce qui vient des Amériques nous arrive dans 10 ans, et voici qu'aujourd'hui, très vite, eh bien, les plateformes sont là. A tout de suite.
Sud Radio, André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Oui, comme tout, évidemment, comme dit le boss, Bruce Springsteen, tout est bon in the USA, en tout cas quand il s'agit des GAFAM, quand il s'agit effectivement de l'extraordinaire évolution numérique que l'on connaît depuis déjà 20 ans maintenant. Et je vais poser des questions à Jason Miller, là je vais faire le bilingue auditeur du Sud Radio, hein, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais vous ne le regretterez pas. Alors, Jason Miller est avec nous sur Zoom et on va l'interroger sur Getter. Hello Jason Miller.
Bonjour, it's great to be joining you from Strasbourg today.
Very good. Yeah, I know you're in Strasbourg. So first, I want to ask you about Getter, which is a new platform. And what is the specificity of Getter? Je demande à Jason Miller qu'il nous explique Getter et quelle est la spécificité de ce réseau Getter. Ça s'écrit G-E-T-T-R. Jason.
Well, thank you very much. Getter is the fastest growing social media platform in history, with now more than 3 million users and over 250,000 users in France alone. And the uniqueness about Getter is that it is a free speech social media platform that will never cancel you or deplatform you or shadow ban you for expressing your political beliefs.
No censorship at all.
So we do have a robust and proactive moderation policy to prevent illegal behavior or illegal activity. Just in the same way you can't walk into a cafe in Paris and threaten someone physically, you can't threaten people on our platform or use racial or religious epithets. But the key is that we will always defend your right to free speech and political speech, which is what people are not being able to do on the other platforms right now.
Very good. Alors je traduis. Donc Getter actuellement a été créé il y a quelques mois et a aujourd'hui 3 millions d'abonnés, dont 250 000 en France. Et la spécificité de Getter, d'après Jason Miller, c'est qu'il n'y aura pas de censure. aucune censure. C'est le free speech, c'est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'interruption parce que vous avez dit telle ou telle chose qui déplaît aux algorithmes. Ça n'existe pas, sauf évidemment, et il le rappelle évidemment, sauf appel au meurtre, sauf diffamation, sauf discours de haine au sens le plus, je dirais, génocidaire du terme. Ça, ce n'est plus la liberté d'expression, c'est l'appel à, effectivement, à l'agression et à la violence. Donc, tout ce qui, et ça, c'est illégal, bien sûr. Donc, tout ce qui est légal sera modéré, comme il dit, il y aura des modérateurs, mais pour le reste, pas question d'une quelconque censure dans une quelconque opinion. Jason Miller, I want to ask you, yeah, you have already Barmy new subscribers. You have Donald Trump, you have Jair Bolsonaro, and in France you have, and I'm citing as an example, Eric Zemmour.
Oui, so we have President Bolsonaro from Brazil, Eric Zemmour from France, which, by the way, I have to tell you, there is so much excitement around anything that Eric Zemmour does. It's very notable to watch that Eric Zemmour could literally go buy a donut or a baguette and TV cameras would show up to cover him. The one thing to clarify, though, is that President Trump has not yet joined the platform. Wow. But you have the next best thing in his former spokesman.
OK. Alors, il explique qu'effectivement, il y a déjà Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Trump n'y est pas encore. Éric Zemmour y est. Et il suit ça. Jason Miller suit ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Effectivement. Alors, c'est une plateforme. Could you say, Jason Miller, it's a very conservative, very extreme right platform or not at all?
So I would describe it differently. I would say that it's the all-in-one free speech platform, and we welcome anybody who supports free speech and opposes woke culture. That is who we will invite to the platform. And so you can be on the left, center right. We would love to have you come and join the platform. And we're already seeing people all across the spectrum join us.
Alors voilà, il dit lui, aucun problème, ce n'est pas une plateforme, je lui demande si c'est une plateforme conservatrice et d'extrême droite, lui dit écoutez, on accueille tout le monde, gauche, droite, centre, il n'y a aucun problème, les limites sont celles de la légalité, de l'appel à la haine ou pas, mais, ou le meurtre bien sûr, mais en dehors de cela et au-delà de cela, tous sont conviés, enfin ceux qui veulent évidemment rejoindre Gator, et il est hors de question de censurer, encore une fois, qui que ce soit du point de vue de son opinion, que ce soit sur la santé ou sur tout autre. Jason Miller, let's talk a little about what's going on in the United States. Well, it will be midterm elections next November. You think that the Republicans, do you think that Donald Trump can make a comeback, not as a president, this is 2024, but as a midterm, you think that there will be a change? What's going on? I mean, let's describe the situation in America now.
The situation in American politics right now is that Joe Biden's poll numbers are bad. And when I say bad, I mean Trey Mall, as bad absolutely as it gets, the worst in presidential history for a president this far into his term. Mm-hmm. I expect Republicans will have a landslide victory in 2022. That's based on the polling numbers, possibly even of historic proportions. And then I do believe that President Trump runs for re-election in 2024, but I do not think it will be against Joe Biden. I do not think Joe Biden runs again. And so I think President Trump faces either Vice President Kamala Harris or California Governor Gavin Newsom.
But you think your conviction, I mean, you think that President Trump will run in 2024?
And the conversations that I've had with the president, it seems pretty clear that he's running. He has not used the exact words to say that he's running in 2024, but he's come very close.
OK. Donc, ce que dit Jason Miller, qui, je le rappelle, est très proche de Donald Trump, il dit que Joe Biden a effectivement les pires sondages aujourd'hui du point de vue de sa politique dans l'histoire américaine, dans l'histoire américaine récente, que effectivement, ça va être très difficile et il pense, Jason Miller pense, que les élections américaines qui, vous savez, on renouvelle une partie du Sénat, une partie de la Chambre des représentants, vont être une, vic- victoire, une très très forte victoire des Républicains. Et il pense, d'après les conversations qu'il a eues avec Donald Trump, que celui-ci se représente vraiment, sauf accident de santé ou autre, celui-ci va se représenter en 2024. Et on verra ce qui arrivera. Thank you very much, Jason Miller, for all this. Thank you. And be a good, and enjoy a very good Strasbourg.
Merci. Strasbourg, qui d'ailleurs est la ville de Philippe Poindron, le virologue qu'on avait à l'instant. Merci beaucoup, Jason Miller. Vous êtes le fondateur de Gaiter, une plateforme que vous pouvez rejoindre dès maintenant, puisqu'elle est disponible en France. Et tout de suite, écoutez, on va faire gagner quelque chose, puisque c'est le sapin de Noël Sud Radio. Et on a une gagnante.
Sud Radio Berkov, dans tous ses états, les perles du jour.
Écoutez-le, chanter le plat pays qui est le mien.
Et le merveilleux plat pays qui est celui de Jacques Brel, évidemment la Belgique. Et la Belgique, c'est un très très beau pays, et Bruxelles, voilà, on adore. Mais de temps en temps, c'est vrai que les écologistes belges ont des moments, je dois dire, il n'y a pas que Sandrine Rousseau dans la vie ou Alice Coffin. Non. Il y a aussi les Belges qui, franchement, rivalisent avec une espèce de talent que nous adorons. Notamment, écoutez ça, c'est formidable. C'était sur la chaîne belge lundi dernier, sur la chaîne belge Les News 24. Donc, c'est. Voilà. Le président du Parti écologiste francophone belge s'exprime et fait une interview. Écoutez bien.
Le problème du gaz, et que vous soutenez beaucoup, c'est qu'il émet des rejets de CO2. Alors vous, votre argument, c'est de dire, oui, mais il y a un cadre européen. Bon, si la Belgique émet un peu plus de CO2 à cause du gaz, ben, ça se compense ailleurs en Europe. C'est quand même un argument qui est un peu qui est tiré par les cheveux, non?
C'est un argument tout à fait légitime, oui, d'une part, et d'autre
Belgique
part...
La Belgique doit faire son effort aussi, ah oui, elle ne doit pas se reposer sur les collègues européens, quoi.
Mais justement, c'est bien ça le problème, c'est que la comptabilité pour les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'énergie se situe au niveau européen. Mm-hmm. Ça n'a donc aucun sens d'entrer dans un raisonnement qui dit « la Belgique doit faire autant ». Non. Oh.
C'est vrai, aucun sens. Alors écoutez, c'est extraordinaire, je répète et je rappelle la chose. Donc, M. Nollet, du Parti Écolo Belge, soutient la construction de centrales à gaz. Hein, à gaz. 450 grammes de CO2 par kilowattheure, pour remplacer les centrales nucléaires qui, je le rappelle, font 12 grammes de CO2 par kilowatt. Voilà. Alors, le journaliste un peu interloqué, on le comprend, on le saurait à moi, lui dit « Attendez, je comprends pas. » Vous voulez construire des centrales au gaz pour remplacer les centrales nucléaires, mais et les effets de serre et le gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'il lui dit, l'admirable Nollet ? Il dit attendez, c'est pas grave, parce qu'on regarde au niveau européen. Donc, comme la France et les autres, c'est très 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 bas, eh ben nous, on sera à la moyenne. Donc, on peut faire du gaz, puisque les autres diminuent leur CO2, enlèvent FSNM et compagnie. On compte sur les Français pour diminuer leur CO2, et puis nous serons dans la bonne moyenne. Voilà, ça s'appelle l'écologie au gaz. Europe, écologie, les gaz et les effets de serre. Oh, c'est pas très important, ça.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et Anna Karina, dans le chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard, hein, Pierrot Le Fou, vous rappelez, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas quoi faire. En tout cas, il y a quelqu'un qui sait, mais oui, il doit savoir, c'est un homme politique, il a été Premier ministre, il a été sénateur, c'est Jean-Pierre Raffarin, à qui on pose dimanche dernier sur l'essai à la question, et alors, entre Pécresse et Macron, est-ce que votre cœur balance? Voici ce que dit le grand Raffarin.
Alors pour vous, 2022, c'est Macron ou Pécresse?
Alors, il est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que la situation est complètement virtuelle aujourd'hui. Emmanuel Macron, il a d'abord un premier atout, il est le plus jeune, le plus expérimenté. Et puis, Macron, il a quand même vu la France de très près, il a vu l'Europe aussi de l'intérieur, et donc je ne crois pas qu'il va aller à la présidentielle avec un projet banal.
Alors là, c'est magnifique.
Là, vous voyez, en quelques secondes, on voit ce qu'on appelle, non pas un virage à 180 degrés, mais un tournoiement magnifique que pourrait envier n'importe quel derviche tourneur de la Turquie profonde. Il dit, c'est trop tôt, c'est virtuel. Mais Macron, il a vu la France de près, il a vu l'Europe de près. C'est magnifique. Donc, entre les deux, eh ben, Raffarin, il a choisi Macron, mais c'est pas le moment de le dire. Je rappelle que Raffarin a été l'un des fondateurs des Républicains et lui-même membre dynamique et membre d'honneur et actif de LR. Et ben Valérie Pécresse est la candidate de LR pour les présidentielles. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mon cœur est un violon et l'archer joue pour Macron.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Ah, Serge Lama, le fameux opéra sur Napoléon de Serge Lama, magnifique. Eh bien écoutez, un bravo pour les Rouennais, pour les habitants de Rouen. Je rappelle, pendant un an, vous savez, on avait enlevé la statue de l'empereur, soi-disant pour la restaurer, etc., qui était effectivement... au centre de la ville. Et le maire de Rouen, eh ben, il voulait la déplacer. Ah, vous savez très bien ce qui se passe. On est woke. Napoléon, esclavage, tout ça, guerrier, ça ne se fait pas. Donc, on l'avait retiré il y a un peu plus d'un an pour des travaux de consolidation. Vous savez, la statue, cette statue, je rappelle le Rouen, elle a été fondue avec le bronze de canon ennemi saisi à Austerlitz. Et elle y trônait depuis 1865. Eh ben, on l'a dit, non, on ne va pas retrouver là, on va le mettre ailleurs. Là, on va mettre quelqu'un d'autre, Gisèle Halimi ou quelqu'un d'autre. Une héroïne dans les normes, quoi. Pas la même chose. Non, c'est pas la même chose du tout. Et puis, comme il y a eu beaucoup de protestations, on a décidé de faire un référendum à Rouen, pour les habitants, ce qu'ils en pensent. Eh bien, 68% des votants se sont prononcés pour le retour de la statue de l'empereur à sa place. 68% des votants, donc il serait vraiment incontestable. Vous voyez qu'il y a encore du bon sens qui est là. Il y a encore du bon sens. Et ça fait plaisir à voir et à entendre face à... Allez, je vais le dire, les rachitiques du bulbe.
Et après cela, on a envie de dire vive le référendum. Et puis tout de suite, on vous fait gagner les cadeaux de Sud Radio avec le sapin de Noël. Et nous sommes tout de suite avec Chantal des Hauts-de-Seine. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Bonjour, alors vous avez plein de choses à gagner. Hein. Vous avez du savon, vous avez des livres, vous avez des CD dédicacés, des chocolats. Mais vous avez aussi des tablettes, des iPhones et des sauts en parachute. Alors on va tout de suite deviner ce que vous avez gagné.
Joyeux Noël. Voici votre cadeau Sud Radio.
Alors, je dois dire, Chantal, que vous avez gagné le gros lot, puisque vous avez gagné un saut en parachute en tandem avec Xtreme et une expérience unique en parachutisme à Lézignan-Corbière. Une petite réaction, peut-être.
Joël, ça vous fait pas peur, le saut en parachute, quand même, hein ? Vous allez sauter, Joël, vous allez sauter.
Vous vous rendez compte, vous parliez de virtuel tout à l'heure, et ça, c'est pas du virtuel.
Ah non, non, pas du tout. Alors, vous pouvez, Joël, vous pouvez aussi déléguer à des amis ou à la famille, hein, mais c'est une expérience formidable, franchement.
Écoutez, j'en suis persuadée, je tiens vraiment à vous remercier, toute l'équipe, et vous, Monsieur Berkoff, gardez cet humour, cette ironie de temps en temps, et je trouve ça très chouette. Voilà.
Merci beaucoup, merci. Et puis alors, écoutez, les parachutes vont vous être envoyés, tout ça va être organisé.
Absolument, et on dit, vous allez faire une chose pour nous, c'est que vous allez aller vérifier les émissions de gaz à effet de serre belge par la même occasion. Merci en tout cas de nous avoir appelé au 0826 300 300, et puis vous allez voir ça tout de suite avec Zachary, et dans un instant, on va parler de l'IGPN, la police des polices.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et un sous-titre qui est forcément éloquent, l'enquête vérité sur la police des polices IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon, avec évidemment un point d'interrogation. Nous sommes avec Frédéric Charpier, journaliste d'investigation. Bonjour Frédéric Charpier.
Bonjour.
Oui, Frédéric Charpier... IGPN, la police des polices. C'est vrai que vous tombez à point. D'ailleurs, je rappelle que vous avez écrit beaucoup de livres, beaucoup d'essais, etc., sur les politiques, sociétés, etc. D'ailleurs, le plus récent, corrigez-moi si je me trompe, c'est sur Mélenchon, non ?
Oui, je crois.
Je crois, oui. mais parlons de la police. Effectivement, non, parce que je dis que vos livres tombent à point, parce qu'on est, ce n'est pas nouveau, et vous le rappelez dans votre livre, effectivement, voilà, la police, les bavures, les excès, et vous rappelez une chose que tout le monde doit savoir déjà, bien sûr, c'est que la police, comme l'armée, tiennent la violence, ce qu'on appelle la violence légitime de la part de l'État, le droit de porter les armes, le droit de les utiliser, mais évidemment, ça nécessite, ça exige une immense responsabilité. Et voilà pourquoi on l'a créé, et c'est intéressant, je ne savais pas du tout, dans votre livre vous le dites, que l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, a été créée en décembre 1884, mais que 30 ans avant, on avait déjà créé l'Inspection Générale des Services. Est-ce que c'était déjà le même métier, la même préoccupation que celle qui dirige l'IGPN aujourd'hui ?
Dans l'idée, dans l'esprit, oui, en quelque sorte, puisqu'il s'agissait quand même de contrôler les gens qui avaient ce pouvoir dont vous avez parlé et qui étaient au service donc, de la répression, au service de la loi. Donc, il fallait s'assurer que les gens qui étaient bien recrutés pour cette mission, l'accomplissaient en respectant les règles et puis en ayant un profil, parce que souvent c'est ça aussi qui était le problème à cette époque-là, c'est qu'on n'était pas très sûr forcément toujours de qui on recrutait. Mm-hmm. Et ça, c'est une mission de l'IGPN qui est restée, c'est-à-dire de s'assurer quand même, pendant très longtemps, il y a eu des enquêtes qui étaient menées, notamment par l'IGS. Oui. Il y a ces deux sigles, mais il y a des enquêtes qui ont été menées pendant très longtemps sur les postulants. Donc, dans un premier temps, c'était de s'assurer de qui on recrutait.
Déjà de leur rectitude, de leur honnêteté, enfin de leur honnêteté au bon sens du terme, oui.
C'est-à-dire de savoir à qui on avait affaire, quoi.
Bien sûr.
Mais bon, cela n'empêchait pas à l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui de vérifier à qui on a affaire.
Oui.
Donc, mais globalement, oui, on arrivait à savoir à peu près à qui on avait affaire.
Mmh. Et justement,
il y a une autre explication sur la création de l'IGPN aussi. Au départ, c'était quasiment un petit service de renseignement parce que c'était des policiers de très haut niveau qui étaient choisis, mais pour une autre raison, c'est qu'ils servaient aussi à vérifier parmi les fonctionnaires, soit d'État, armée, on le voit bien dans l'affaire Dreyfus, ils ont été utilisés pour ça.
Ouais.
Donc il y avait une utilisation quand même. De ce service dans un but de contrôle, comme un peu comme les renseignements généraux, autrefois en partie, etc. Et d'espionnage aussi.
D'accord. Oui, en fait, il y avait les deux fonctions, effectivement. C'est-à-dire servir l'État, mais l'État se serve d'eux dans certaines circonstances également. Frédéric Charpillon, on va parler de tout ça longuement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est au centre, en tout cas, des débats, non seulement des débats présidentiels, bien sûr, mais des débats permanents. On se retrouve après les informations. Restez avec nous. Et vous aurez aussi les auditeurs du Sud Radio qui auront beaucoup de questions à vous poser.
Absolument, vos questions, vous les posez en nous appelant au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Frédéric Charpier, auteur de l'IGPN, une enquête sur la police des polices. On se retrouve dans un instant après les informations.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Il n'y a pas que moi qui suis dans tous mes états. IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, une institution au-dessus de tout soupçon, pour l'interrogation. Frédéric Charpier, le journaliste d'investigation, a mené l'enquête sur la police, la fameuse police des polices. Alors, c'est assez compliqué en ce moment, Frédéric Charpier, parce que c'est vraiment depuis quelques années, on va pas raconter toute l'histoire de GPN et de JS depuis 1854 ou 1884, mais depuis, et vous vous rappelez effectivement 1986 avec les voltigeurs Malik Oussekine, vous rappelez 2005 avec les soulèvements en banlieue et effectivement un certain nombre de Théo, notamment l'histoire de Théo qui a eu lieu. Vous rappelez beaucoup plus récemment Adama Traoré, les uns, la police l'a tué, les autres, non, c'est lui-même, crise cardiaque, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous le racontez dans votre livre, et donc vous le racontez bien, et je renvoie effectivement les auditeurs à lire ce livre où ils apprendront, en tout cas, ils se remémoreront de beaucoup de choses. Ce qui se passe dans 9-3, les banlieues, et récemment un film qui a eu beaucoup de succès est venu parler de ça, alors traité de conservateur, voire de facho par les uns, ou au contraire de très lucide par les autres, je parle du film Bac Nord, effectivement, sur la Bac. Alors, Frédéric Charpier, aujourd'hui, on a l'impression que la France est divisée en deux camps, les uns qui disent... Effectivement, la police se font à chaque fois agresser, tir au mortier, voiture de police brûlée, Viry-Châtillon où ils ont failli brûler vif dans leur voiture, etc., etc. Et les autres qui disent non, tout le monde est la police, police, assassin, etc., etc. Est-ce que c'est, je dirais, très ancien, c'est une polémique très ancienne, ou qui en tout cas a repris de sacrées couleurs depuis quelques années?
Je pense, si vous voulez, évidemment, il y a le côté « on n'aime pas les flics », c'est une vieille antienne.
Ouais.
Il y a toujours eu un réflexe en France, le côté un peu gaulois, un peu « je m'en foutisse », qu'aime pas les qu'on leur donne des ordres, qu'aime pas traverser dans les clous, etc.
Gaulois réfractaire.
Voilà, il y a cette petite culture qui avait fini quand même un peu par disparaître, parce que tout ça est un peu quand même vieillot, et il était temps qu'on regarde les choses en face. Bon, là, ce qui se passe, c'est ce que vous expliquez, c'est à la fois vrai et peut-être faux. C'est-à-dire qu'il y a bien ce que vous dites, mais ça concerne qui? C'est-à-dire que quand vous dites, il y a des gens qui ont fait vocation d'hostilité rabique envers la police, c'est qui? C'est combien de divisions? Ça s'appuie sur quoi? Je pense, si vous voulez, que les médias, évidemment, grossissent et l'un et l'autre, camp, des deux camps, mais qui, selon moi, si vous voulez, ne sont pas aussi représentatifs que la réalité, voilà, que peut l'être la réalité. C'est ce que je pense sincèrement. Donc je pense, si vous voulez, qu'il y a des forces politiques qui sont hostiles à la police. Elles le sont d'ailleurs historiquement. Dans le livre, je reviens d'ailleurs sur un certain nombre d'épisodes de ce genre pour contextualiser. Ce n'est pas pour le plaisir de raconter des vieilleries, mais c'est d'expliquer d'où on vient sur ces sujets-là. Voilà, et de l'autre côté, vous avez des syndicats de police qui, depuis, on va dire, la dernière présidentielle, enfin, à l'époque de Chirac et de Jospin, ont complètement culbuté leur relation avec la presse. Et j'ai assisté d'ailleurs à ce moment-là, à l'époque, puisque j'ai couvert pas mal de manifestations de policiers et d'autres choses à cette époque-là. Mmh. Donc, je pense que les relations entre les médias, la police et la gendarmerie à cette époque ont profondément changé. Et il y a eu peut-être aussi peut-être une surprésence policière, enfin des syndicats de policiers, de certains syndicats de policiers dans les médias, et de l'autre côté, peut-être aussi une surenchère médiatique dans certains milieux qui sont traditionnellement des milieux hostiles effectivement à la police. Enfin, ça, dans l'affaire Traoré, c'est quasiment une caricature.
Oui. Mais elle a été sacrément instrumentalisée, vous êtes bien d'accord quand même. Parce que quand vous dites, effectivement, la vérité et l'erreur, mais avant de revenir à l'IGPN, la vérité et l'erreur sont peut-être relatives, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est pas une question de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, d'ailleurs vous ne le faites pas, mais c'est une espèce d'exacerbation, alors que les médias y jouent un rôle, c'est évident, mais en même temps, il y a une espèce de, comment dirais-je, de fait divers, j'allais dire, on a l'impression que presque tous les jours, alors est-ce que vous trouvez que c'est gonflé, que presque tous les jours, il y a des chocs, etc., qui ne sont pas apocalyptiques, mais à bas bruit qui existent?
Non, mais ça c'est exact, par contre. C'est-à-dire qu'il y a une montée dans les cités, mais cette violence, elle existait aussi avant. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans le bouquin, je reviens sur certains épisodes.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que dans certaines affaires, que ce soit Villiers-le-Bel, les événements qui ont suivi l'affaire Traoré, la mort du jeune Traoré, vous avez eu des incidents extrêmement violents qui se sont produits dans les cités. Mais quand vous regardez ce que j'ai fait attentivement, les dossiers, les procédures, les PV, etc., vous apercevez quand même que ce sont des petits groupes très mobiles, très déterminés, comme on veut, peu importe. Mais ça ne représente pas grand monde. Les gens qui sont très actifs dans ces moments-là, c'est une centaine de personnes. Alors, je ne dis pas qu'autour, Et ça, je dis une centaine de personnes parce que je m'appuie sur les rapports de police ou de gendarmerie. Hein, c'est pas, j'étais pas sur le terrain, je les ai pas comptés moi-même. Mais disons que, grosso modo, cette hyper-violence, elle existe. Et elle devrait poser des problèmes parce qu'on tire de plus en plus volontiers sur la police avec des armes à feu. Ça, c'est quand même nouveau.
Ça, c'est nouveau. Et oui. Et alors, justement, pour revenir, on va en reparler. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, parce que c'est pas assez clair dans votre livre, je vous le dis, et c'est intéressant parce que votre livre fourmille d'éléments, d'informations, etc., intéressants. Mais pour revenir à l'inspection générale de la police nationale, on a l'impression que on ne sait pas très bien si jusqu'à aujourd'hui, mais vous le dites d'ailleurs très honnêtement, est-ce qu'ils font leur boulot vraiment? Je veux dire, est-ce qu'ils sanctionnent comme il faut? Ou au contraire, justement, ils défendent aussi comme il faut, bien sûr, qu'il faut défendre. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, alors il y a eu des tas d'épisodes, mais est-ce qu'aujourd'hui et depuis quelques années, ils font effectivement ce qu'ils doivent faire? Parce que les adversaires disent oui, mais les JPN, ils couvrent. On entend ça, alors y compris dans les médias ou ailleurs. Ou au contraire, on dit non, non, c'est pas vrai, ils font leur boulot. Alors là, je voudrais avoir vraiment votre sentiment après cette enquête.
C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que leur boulot, justement.
Oui, absolument.
Je pense qu'on leur prête souvent un rôle qu'ils n'ont pas. Si vous voulez, quand, dans le cadre d'une enquête administrative, on ne leur demande pas de trancher un débat et de condamner et d'envoyer les gens soit en prison, soit les virer de la police. C'est pas ça qu'on leur demande. Mmh. On leur demande d'établir un certain nombre de faits. Après, ils les établissent ou pas avec, bon, peut-être les moyens qui manquent, parce que quand il y a beaucoup d'enquêtes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu l'IGPN a mené plus de 1000 enquêtes en 2020, mais leurs effectifs globaux, je regarde ma note pour ne pas me tromper, c'est un peu moins de 300.
Mais c'est sûr que
il ne faut pas que ça. Ouais. Donc, je veux dire, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. En plus, mais bon, il faut aussi tenir compte des réalités. Bien et sûr. Aussi, dans les affaires, si vous voulez, de violence de rue, sociale, etc., type gilet jaune, vous avez eu aussi une politique du parquet qui a amplifié l'intervention de l'IGPN alors qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ce qu'on leur demandait de faire. C'est-à-dire que le parquet avait décidé de saisir systématiquement, à chaque fois qu'il y avait un problème, l'IGPN. C'était d'une manière, à mon avis, personnellement, de se couvrir un peu. Bon, mais ça crée une surcharge pour l'IGPN qu'elle n'a pas réussi forcément à assumer dans un temps, on va dire, raisonnable et qui a donné cet effet de loupe. Vous voyez, sur ce qu'elle a fait, et puis les résultats, parce que vous saisissez un service, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, s'il ne s'est rien passé, vous dites, il ne s'est rien passé. Et à ce moment-là, on va dire, oui, mais l'IGPN a enterré une affaire. Ben, des fois, si on ne l'avait pas saisie, elle n'aurait pas eu besoin de l'enterrer, elle a tout simplement transmis au parquet, qui lui-même a classé.
Bien sûr.
Il faut remettre chacun face à ses responsabilités.
Oui, c'est très juste. Et on va en parler de cela parce que vous racontez cet épisode et les gilets jaunes, on va revenir là-dessus. Et le tir tendu, on a su ce qui s'est passé avec les LBD et les grenades de désencerclement. Il y a eu quand même des choses assez graves qui se sont passées. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus juste après ceci. On se retrouve dans quelques instants.
Eh bien justement, que vous soyez policier, gilet jaune ou tout simplement si ce sujet vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous allez prendre la parole dans un quart d'heure.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Frédéric Charpier, vous rappelez, et avec raison, que ce n'est pas l'IGPN qui sanctionne, ce n'est pas l'inspection générale de la police nationale qui sanctionne, c'est le parquet et c'est la justice. Parce que beaucoup de gens ont tendance, et vous le rappelez tout à fait judicieusement dans votre livre, que les gens ont tendance à penser que c'est l'IGPN qui sanctionne directement et qui prononce des condamnations ou des sanctions. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais je voudrais qu'on reste un peu, puisque vous en parlez assez longuement et assez légitimement dans votre livre, sur ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, le tir tendu, vous savez, Jérôme Rodriguez, les éborgnements, etc., les mains arrachées, grenades de désencerclement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le rapport justement avec l'État, la police, les juges et l'inspection générale à ce moment-là?
L'inspection générale, elle a été saisie après de manière systématique. Mais en ce qui concerne la politique, on va dire, de maintien de l'ordre, c'est ça que vous voulez dire.
Oui.
Qu'est-ce qui a été voulu d'emblée? Je pense que j'avais commencé à travailler déjà à cette époque-là sur le sujet et d'emblée, Je me souviens d'avoir discuté avec des policiers bon, qui étaient, disons, à des postes de responsabilité. Et je pense que d'emblée, ce qu'ils voulaient, c'était couper court assez rapidement. Et je pense que la politique qui a eu lieu, c'est-à-dire, d'une violence un peu raide sur des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester. Hein, il faut dire une chose, il y a beaucoup de gens qui sont venus au début, qui étaient des primo, on va dire, manifestants. Quoi.
Absolument.
Des gens qui n'avaient pas eu l'habitude de s'affronter. Or, les militants savent que quand vous allez un affrontement comme ça, il y a des risques, vous prenez des risques, etc. Mmh. Donc, il y avait ce côté délibéré de vouloir faire mal. Deux, de ratisser, c'est-à-dire d'embarquer le maximum, parce qu'il y avait aussi un autre problème qui se posait, c'est celui du renseignement. Parce que là, on avait affaire à un mouvement que personne ne connaissait, avec des leaders qui émergeaient, et puis peut-être derrière une faune qu'on aurait bien aimé identifier. Vous voyez, donc, vous arrêtez, vous signalisez, vous créez un fichier. Et comme ça, grosso modo, vous pouvez avoir déjà un aperçu sur qui manifeste et pourquoi. Et puis derrière tout ça, que ce soit la violence, le fichage et les condamnations, il y a eu beaucoup de condamnations au début, de gens qui sont passés en flagrant délit et qui ont été condamnés, bon, vous dissuadez. Et ce qui s'est passé, bon, ça a plutôt bien marché sur la masse, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, les militants ont pris le relais, disons en devenant des gilets jaunes, plus ou moins officiels. Et là, si vous voulez, on a eu cette couverture un peu curieuse qui a duré presque un an. Tous les week-ends, il y avait le rendez-vous. C'était extrêmement curieux de voir ça. Moi, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du maintien de l'ordre. Je me suis intéressé à ces choses-là jadis. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire, c'était quasiment devenu une activité dominicale les centres-villes, où on sait très bien que les centres-villes, c'est sensible.
Bien sûr.
D'ailleurs, voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Alors, est-ce que c'était délibéré? Est-ce que c'était une incapacité à régler le problème ou à le régler mal, ou je ne sais pas. Il y a eu quelque chose d'anormal dans le traitement après coup de ce qui s'était passé au début. C'est ce que je pense.
Et justement, et alors, de ce point de vue, est-ce qu'il y a eu, pour revenir à l'inspection générale, par rapport à justement ce qu'on a. Vous en parlez du tir, ce qu'on appelle le tir tendu, c'est-à-dire des gens qui visent à la tête, etc. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès général de qui que ce soit, ça n'est pas généralisé. Mais est-ce que l'IGPN a été sollicité ensuite pour l'enquête, etc., de façon systématique ? Après, vous le dites vous-même.
Oui, elle a été systématiquement saisie. Mais vous disiez tout à l'heure, vous parliez de l'usage de la force, qui est un privilège confié à des gens recrutés, avec des critères particuliers.
La force légitime, enfin l'usage légitime. Vous
appeliez la force légitime.
Oui.
Et ça existe. D'ailleurs, l'IGPN, elle n'est pas là pour dire que c'est pas bien de faire mal à quelqu'un dans la répression d'un mouvement social. Mmh. Elle est là pour dire si, est-ce que en rétablissant l'ordre ou en se manifestant, la police a utilisé de manière réglementaire et pas de manière disproportionnée la force. C'est ça, et les moyens qui sont à sa disposition. C'est ça dont elle est juge. Elle n'est pas juge au-delà. Donc, vous pouvez très bien avoir un policier qui va faire mal à quelqu'un et derrière l'IGPN qui dit « Ah ben oui, il a agi dans les règles ». Vous voyez, ça, c'est une enquête administrative.
Mais est-ce que c'est l'IGPN qui, par exemple, peut dire, là, il a agi de manière disproportionnée, il est allé trop loin? C'est l'IGPN qui dit ça?
Mais j'ai écrit dans mon livre ce que l'IGPN pense de ce qui s'est passé à Marseille. Ouais. Cette femme qui a été atteinte dans son appartement, une vieille dame qui a plus de 80 ans, qui est morte dans la foulée. Bon, et là, l'IGPN a très bien repérer les faits, repérer les gens. Et son avis, c'est qu'il y avait eu un usage intempestif et mal pensé de ça. Le tir tendu, vous parlez du tir tendu, c'est effectivement quelque chose de très important, le tir tendu, parce que ce n'est pas nouveau. Hein. Historiquement, tous ceux qui ont connu les années 70 ou même 68, c'est pas mon cas, mais enfin, bon, quand même, on se souvient de ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de violences de ce genre. Et après, dans les années 70, le tir tendu était devenu quasiment un usage regrettable et assez constant chez les forces de police, parce qu'il y avait des bagarres sans arrêt. Bon,
on peut
imaginer que c'était une manière comme une autre de dissuader. Donc le tir tendu, bon, aujourd'hui, c'est avec des armes qui sont encore plus fortes. Donc, c'est répréhensible. Le tir tendu, c'est illégal pour un policier. Il n'a pas le droit. Donc, l'affaire de Marseille, elle est très intéressante pour ça. Parce qu'au fond, les policiers disent, on a on a tiré réglementairement, c'est-à-dire on a fait un tir en cloche, parce qu'on n'a pas le droit de viser les gens, mais l'enquête, une partie de l'enquête a bien démontré que ce n'était pas vraiment le cas. Il n'y avait pas eu, ce n'était pas possible que le tir soit en cloche. Là, je ne tranche pas, la justice tranchera. Mais enfin, disons que là, si vous voulez, on a affaire à quelque chose, à un événement où l'IGPN a joué un rôle extrêmement positif. Parce que bon, il y a d'autres cas que je cite dans le bouquin, où, où même des médias, bon, pourtant très engagés, ont reconnu, à gauche, et très hostiles à la police d'habitude, ont reconnu que l'IGPN avait fait un très bon travail. On ne peut pas généraliser, globaliser, mais généralement,
bien sûr.
Ils essayent de faire leur boulot.
Est-ce qu'aujourd'hui, le tir tendu est toujours, pas de façon quotidienne, mais le tir tendu est toujours chose courante ou il est aujourd'hui, je dirais, très surveillé, voire interdit, ou pas, à votre connaissance?
Le tir tendu est interdit. On n'a pas le droit de viser quelqu'un avec un lance-grenade ou un LG. On n'a pas le droit.
Ou LBD, oui, c'est ça, oui. Oui,
d'accord. Ou LBD. On n'a pas le droit.
Voilà. D'accord.
Ça, c'est interdit, donc on n'a pas le droit de le faire.
D'accord. Et juste un mot là-dessus, par rapport à vous avez, c'était très intéressant, puisque vous avez interviewé la Brigitte Julienne, c'est ça, la patronne, pardon. Oui. De l'inspection. Et en fait, c'est très intéressant, vous commencez votre livre en disant qu'elle avait un rapport qui était un rapport historique. Je voudrais que vous nous racontiez cela, parce que vous voudrez écouter, voilà, c'est arrêter de chosifier la police, ou arrêter, etc. Brigitte Julien, elle avait un rapport historique sur son bureau quand il y a eu la cérémonie, effectivement, la fameuse cérémonie 25 janvier, pour les vœux, 25 janvier 2020.
Oui, c'est l'affaire Petiot, en fait. Vous faites allusion à l'affaire Petiot.
Oui,
c'est amusant, C'est-à-dire que, bon... Bon, l'affaire Petiot en deux mots, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cet immonde criminel, c'était un médecin, sans doute à moitié fou, mais crapuleux, et qui aimait l'argent visiblement aussi, qui faisait disparaître des juifs pendant la guerre à Paris, dans une de ces caves, bon, qui était équipée d'un incinérateur. Il avait fait, je crois, exterminer plus d'une trentaine de personnes. Et donc, quand il a été arrêté, on est descendu chez lui, bon, il a réussi à s'enfuir. Bon. Mmh. Il y a la presse de l'époque était la presse collabo, d'ailleurs. Hein, c'était mis à tirer à boulet rouge contre le préfet de police de l'époque, en disant la police est complice. Bon. Il faut dire qu'à l'époque, les mouvements collabo avaient toujours de mauvaises relations avec la police.
Avec la police, oui.
Il y avait beaucoup de problèmes avec eux.
Intéressant.
Ils croyaient tout permis. C'est amusant. Ouais. Et alors, donc, cette affaire, il y a eu une campagne de presse contre l'IGS, quoi, contre la police, etc. Et le préfet a voulu écarter toute possibilité de collusion entre la police, des policiers et Petiot. Il a saisi l'IGS et l'IGS a rendu au préfet de police un dossier énorme qui était effectivement sur le bureau de Madame Julien, là, quand je l'ai croisé, et qui était un énorme pavé, comme ça, avec une accumulation de PV. C'était le truc complet, l'enquête totale qui avait été faite pour, au final, dire qu'il n'y avait pas eu de...
Bon,
ce que vous voulez dire, Madame...
Ouais.
Voilà, il n'y avait pas eu de collusion et que l'APJ était...
Et Mme Julienne voulait dire que, vous voyez, on fait notre travail. Enfin, ils ont fait leur travail, quoi. C'est ça.
Elle disait que, bon, on critique beaucoup, mais vous voyez, ce n'est pas nouveau. De tout temps, on critique la police. Et bon, souvent, ce qu'elle voulait dire, souvent de manière injuste. Mais bon, on la critique aussi parfois de manière juste.
Merci. On se retrouve tout de suite après ceci et... avec les auditeurs de Sud Radio, Frédéric Charpier.
Et vous allez prendre la parole dans un instant, mais pour ça, il faut nous appeler au 0826 300 300. Vous serez avec Zach au standard.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et c'est le moment où vous posez vos questions à Frédéric Charpier. Nous sommes tout de suite avec Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne au 0826 300 300. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour Jean-Claude.
Sud Radio, bonjour. Monsieur Berkoff, bonjour. Et à votre invité, bonjour. J'en profite parce que j'ai peut-être oublié de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous remercier pour votre émission.
Merci. Déjà. Et je vous les souhaite aussi.
Et je vous remercie également. Alors, à votre invité, je vais lui poser une, si je peux, deux questions. Ouais. Moi, je suis un simple citoyen.
je suis à des années-lumière un petit peu de connaître tous les dédales de l'administration. Moi, je voulais poser la question. Déjà,
allez-y.
Quel est le profil de ces, je ne vais pas dire super flics, mais quel est le profil de ces policiers qui sont en IGPN? Est-ce que ce sont des anciens policiers ou des gens qui ont été sur le terrain, hein, donc qui connaissent, hein, et qui connaissent un petit peu les, entre guillemets, les problématiques qu'il peut y avoir? Et la deuxième question, est-ce que l'IGPN, quand elle met, je dirais, quant à l'entente des fonctionnaires de police qui sont comportés de différentes façons, est-ce que l'IGPN a le droit, et peut, hein, remonter jusqu'au commandement, c'est-à-dire jusqu'aux ordres qui ont été donnés? Je n'ai pas de jugement de valeur. Hein.
Voilà. Frédéric Charpier, deux bonnes questions.
Oui, eh ben, monsieur Béthévé, c'est une très bonne question. Ce sont en général des gens qui ont eu une autre vie dans la police avant d'arriver à l'IGPN et autrefois à l'IGS. Bon, il y a eu aussi, on se regarde sur le plan historique, parce que ça a eu souvent aussi des fonctions un peu différentes. Hein. À une époque, le IGPN, c'était considéré un peu comme un dépotoir, ou en tout cas un truc où on mettait des policiers qui momentanément ne plaisaient pas, etc. Bon, mais disons qu'on va écarter ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, par exemple, si vous prenez les deux dernières patronne de l'IGPN, c'était deux femmes, parce que c'est devenu un poste qu'on attribue désormais, jusqu'à preuve du contraire, à une femme.
Ouais.
Si vous regardez ces deux femmes, ce sont deux femmes qui ont eu un parcours dans la police, qui est un parcours complet, quasiment, avec des responsabilités, y compris sur le terrain, en PJ, etc. La police des frontières pour l'une, la police judiciaire. L'actuelle, elle a même été à une époque à l'IGS, donc elle avait ça en plus, mais sinon, ouais. elle a fait toute une carrière en ce qu'on appelle en sécurité publique. Voilà. Donc, ce sont des policiers qui ont un passé. Alors après, vous avez beaucoup de personnel technique, hein, qui travaille à l'IGPN, qui sont des gens qui ne sont pas forcément des policiers de terrain. Vous avez dans la police d'agents techniques, hein, des gens qui sont. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça. Mais globalement, on va dire, ce sont des policiers comme les autres.
D'accord.
Hein, qui arrivent à la fin de leur carrière, qui peuvent avoir ce genre de choix.
Oui. Et la seconde question, Frédéric Charpier, est-ce que l'IGPN a ou fait, et ça rentre dans ses prérogatives, ou en tout cas dans ses pouvoirs, de remonter la filière pour savoir qui a donné des ordres dans telle ou telle circonstance?
Je vais répondre à une autre question qui n'est pas posée là. Mais qui peut être, et la question qui, à mon avis, me paraît peut-être posée de manière indirecte, c'est est-ce que l'IGPN s'en prend à tout le monde? Est-ce qu'elle ménagerait les hauts responsables de la police, les patrons, etc.? Réponse, non. L'IGPN, et ça, quand on regarde, ça, je l'ai fait, j'ai raconté quelques histoires, quand elle s'intéresse à une histoire, que le policier soit un policier de base ou un policier de très haut niveau, s'il a commis une faute et si l'inspection arrive à l'établir, il va prendre comme tout le monde.
Ah ouais. Quel que soit le grade, quelle que soit la hiérarchie.
Quel que soit le grade.
Alors, d'accord.
Quel que soit le grade. Alors, je ne sais pas si c'était peut-être pas ça la question qui était strictement posée, mais en tout cas, si c'était celle-là, j'y réponds comme ça.
D'accord. Augustin.
Merci beaucoup, Jean-Claude, de nous avoir appelé avec de très bonnes questions, en effet. Nous sommes avec Régis qui nous appelle de Châtenay. Bonjour, Régis.
Oui, bonjour, Régis.
Bonjour.
Oui, attendez, vous entendez mal.
Oui, j'ai enlevé le haut-parleur.
Ah, très bien.
Bonjour, Monsieur Bercot. Alors, moi aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes pendant les vacances. Et puis, je vais faire comme mon collègue d'avant.
Oui.
C'est-à-dire que je vais vous dire tout ce que j'ai envie de dire. Et puis après,
allez-y, simplement, soyez ramassés. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Mais allez-y.
Je vais essayer. Alors, je dis que la droite comme la gauche sont responsables. Mmh. En plus, l'éducation n'apprend pas aux jeunes à respecter les autorités. Ça se retourne contre eux. Je n'aime pas les flics personnellement, mais quand on me demande mes papiers, je les présente sans manifester mon ras-le-bol. Mmh. Par contre, avec les gilets jaunes, le jour où ils ont présenté leurs papiers et leurs sacs ouverts pour aller sur les Champs-Élysées, et 25 mètres plus loin, ils avaient droit au gaz. Là, je pense que le gouvernement, ils ont agi, pas sans les ordres, mais avec des ordres venant du gouvernement, qui a bien aussi géré les gilets jaunes que le Covid, avec la complicité de la majorité des journalistes complotistes du gouvernement. tout au moins pour le Covid.
Et donc, vous, vous trouvez qu'effectivement, là-dessus, il y a eu excès, disons, pour parler des gilets jaunes, déjà.
Les gilets jaunes, ben, le gouvernement, il a pensé qu'il allait les mater au lieu de discuter. Mmh. Et puis, pendant que j'y suis, un truc que j'ai oublié, c'est que les casseurs, il y a, j'ai entendu, d'ailleurs, c'était peut-être bien sur votre, votre radio, un auditeur qui disait pourquoi on les marque pas avec les flashballs, là, les trucs à peinture. Et après, on le récupère. Et dans ce cas-là, il y en aurait moins sur le terrain, quoi.
D'accord.
Mais on a l'impression qu'on les laisse faire pour justement discréditer
les gilets jaunes,
les manifestants.
Oui. Voilà. Frédéric Charpier, est-ce que au-delà effectivement de cet exemple-là, est-ce qu'il y a évidemment, et c'est pas nouveau, vous allez me dire, manipulation, etc., en utilisant et instrumentalisant, pardon, une partie de la police à ses fins?
Dans le maintien de l'ordre, il y en a eu, on pourrait faire un gros livre là-dessus.
Mais...
ce qu'on appelle des provocations, des manipulations, ça a toujours existé. Après 68, peut-être vous en souvenez aussi, j'en sais rien, mais il y avait eu une soirée Saint-Michel où des gens avaient cassé des vitrines, etc. C'était en 70, je crois, ou 71. Et en fait, il y avait des gens qui avaient pris des photos. C'était des policiers qui avaient, sur ordre à l'époque, cassé les vitrines. Bon, tout ça, c'est vieux, mais ça prouve en tout cas...
Ah, ça existe encore,
oui. On n'est pas à l'abri de ce genre de manipulation.
Ouais.
Certains l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. On a lu ça dans un livre de témoignages il n'y a pas longtemps où on a appris qu'un ancien ministre de l'Intérieur avait délibérément laissé des jeunes de banlieue SIC tabasser des jeunes pas de banlieue à Paris lors d'une manif. Voilà.
Oui, il y a eu beaucoup. Il y a eu des manipulations dans tous les sens, et c'est vrai, vous en parlez aussi. Oui.
Et on va maintenant dans l'Hérault avec Ben qui nous appelle au 0826-300-300. Bonjour Ben.
Oui,
bonjour. Bonjour messieurs, bonjour. Et voilà, ben merci de me donner la parole. Simplement, voilà, ce que par rapport à la police, ce que je voulais dire, c'est que évidemment qu'on a besoin d'une police, d'autant que c'est une police républicaine. Mm-hmm. Donc, je crois que ça mérite le respect. Voilà. Mm-hmm. Mais ceci dit, il y a quand même un pourcentage de policiers qui sont irrespectueux. Bon, mm-hmm. peut-être je connais pas le pourcentage, mais certainement très faible.
Quand vous dites irrespectueux, ça veut dire quoi, Ben? Qu'est-ce que vous voulez dire par irrespectueux?
Le tutoiement.
Ouais.
Bon, un policier, voilà, il vous tutoie. Ouais, passe-moi tes papiers, et puis il vous jauge, et presque il vous humilie. Voilà, c'est, il a la force avec lui. Mmh. Alors, vous savez, il y a des gens, vous leur mettez un képi, c'est plus les mêmes. Hein. Mmh. Voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est une minorité, je le redis, hein.
Mais
on a le sentiment que ces gens-là sont protégés, sont couverts. Même s'ils peuvent tutoyer, même s'ils peuvent avoir un rapport de force avec vous, on ne peut pas lutter contre ça. Mmh. Comment moi, je vais, si un gars, un policier vous tutoie, il ne vous respecte pas.
Ouais.
Quelle marge de... Qu'est-ce que j'ai, moi, pour me défendre? Voilà, et donc, la seconde chose, c'est que, si vous voulez, au niveau des policiers, on a l'impression, quelquefois, que quand il y a des bavures, eh ben, on a le sentiment qu'ils sont protégés. C'est-à-dire qu'on a très rarement vu dans l'histoire, hein, de notre pays, des policiers lourdement condamnés par rapport à une bavure, etc. Mmh. Alors c'est souvent des sursis, souvent le policier il est licencié, mais il n'y a jamais de peine. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est un boulot difficile, hein, je ne dis pas ça. Hein. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui mérite le respect. Mais comme dans tous les métiers, je dis bien dans tous les métiers, même parmi les journalistes, hein, eh ben, il y a des gens bien, et il y a des gens moins bien.
Un peu partout, simplement, c'est vrai.
Simplement, dans d'autres métiers, les gens, ils sont foutus dehors. Mais dans la police, non. Dans la police, on a l'impression que les policiers ont tous les pouvoirs. Et ça, c'est pas normal.
Alors, Frédéric Charpier, les questions, Ben. Effectivement, le tutoiement, cette espèce de sentiment. Et c'est vrai que Ben n'est pas le seul. Beaucoup le disent, beaucoup le... Et quand il dit, surtout, oui, mais les policiers, effectivement, il y a très peu de condamnations, peut-être qu'on les écarte, etc. Vrai ou pas vrai, ça, Frédéric Charpier?
Tout dépend, évidemment, de ce qu'un policier a fait. En général, quand il a commis un crime, il dégage et il va en prison. Dans le livre, je rappelle un certain nombre d'affaires où les policiers se sont retrouvés en prison. Le policier qui est parti avec 50 kilos de cocaïne qu'il avait pris les stocks de la BSP à Paris.
Passionnant ce que vous racontez là, oui.
il s'est retrouvé lui aussi.
Oui, ils sont vraiment sanctionnés, non ? C'est ce que vous dire par rapport à Bell.
Non, il peut y avoir un problème, je suis d'accord. Je suis d'accord, de perception, souvent. Mais il ne faut pas tout confondre. Le tutoiement, je suis d'accord. Je trouve que c'est un truc qui est totalement inutile. C'est comme le passage à tabac, ça ne sert à rien, c'est fini, ça. Vrai, il y a des choses sur lesquelles on va faire des croix. Vous voyez, quand on parle d'une police républicaine, ben ça a des exigences. Alors, si on emploie le mot simplement parce qu'il faut employer le mot, ça n'a pas de sens. Mais si on veut donner du sens au mot, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Bon, donc quand les gens font des choses graves, ils sont condamnés, il n'y a aucun problème. Quand ils ont en interne fait des choses, ont accumulé des choses, on les vire. Il y en a beaucoup qui sont virés chaque année, quand même. Bon, après, on ne vire pas forcément tout le monde. On peut mettre qu'un policier qui a fait des bêtises, entre guillemets, on peut le mettre, l'affecter à un poste où, parce qu'il faut à la limite s'en servir. Tout n'est pas, exige pas que le type aille en prison pour les
tout n'est pas blanc et noir, c'est pas entre les monstres et les anges.
Donc ils peuvent être tolérants, et la hiérarchie peut être tolérante, elle l'est parfois vis-à-vis d'elle-même. C'est vrai, tout ça existe aussi. Il ne faut pas se leurrer, mais disons que globalement, on ne peut pas non plus reprocher systématiquement tout.
Que tout n'est pas couvert, absolument.
Et merci beaucoup à tous ceux qui nous appellent et vous allez encore prendre la parole pendant un quart d'heure. On se retrouve dans un instant.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous filons tout de suite au 0826-300-300 à Bordeaux avec Oumid. Bonjour Oumid.
Bonjour Oumid.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
On vous écoute.
On vous écoute Oumid. C'est à vous.
Bonjour monsieur Berkoff.
Bonjour.
Et bonjour monsieur Frédéric.
On vous écoute.
Et merci de m'avoir donné la parole. Moi je suis marocain.
Oui.
Et j'étais au Maroc, j'étais lieutenant de la gendarmerie.
Oui.
Pendant 10 ans. Et 2 ans instructeur.
Mm-hmm.
Je suis rentré en France en 72.
Oui.
Et là, il est arrivé une chose. Un jour, on a fêté l'anniversaire d'un ami dans une entreprise.
Oui.
Et
vous étiez où en France c'était où, en quelle ville c'était...
À Bordeaux, Bordeaux.
À Bordeaux, d'accord.
Bordeaux.
D'accord.
Juste en face de la gare Saint-Jean.
D'accord.
Et puis, il y avait, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait entre le barman et mon ami, parce qu'il était obèse, il a traité d'obèse et tout.
Mmh.
Tout d'un coup, on voyait 4 policiers qui arrivent. Ils ont commencé à taper mon ami. Il travaille avec moi.
Ouais.
Il portait des lunettes de vue.
Ouais.
Et mon ami, il a perdu ses lunettes.
Mmh.
Par terre. Moi, je me suis baissé pour prendre les lunettes. Et un policier, il m'a donné un coup par derrière. J'ai fait un plongeon.
Mmh.
Après, l'autre, il m'a soulevé. Il m'a donné une gifle. Mmh. Il m'a dit de quoi on se mêle.
Ouais.
J'ai expliqué que le monsieur, il travaille avec moi, et sans lunettes, il ne peut pas travailler.
Ouais.
Donc, il m'a menotté avec lui, nous a amené au poste. J'ai expliqué mon cas à un officier.
Ouais.
Et il m'a dit de rentrer chez moi. J'ai dit non, je veux d'abord donner une explication. Pourquoi il m'a giflé ?
Ouais.
J'ai rien fait, moi.
Ouais, ouais.
Pourquoi il m'a giflé ? Une gifle, monsieur Berkoff. Une gifle, c'est comme on crache sur la Bible.
En tout cas, une gifle, c'est une gifle, c'est clair.
Voilà.
Il n'y a pas de raison.
Et un coup de pied par derrière, j'ai fait un plongeon, j'avais même des égratignures à la main.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Oui.
L'officier, il m'a dit de rentrer chez moi. J'ai dit non, je ne rentre pas chez moi, je voudrais voir un supérieur pour expliquer mon cas.
Oui.
Il m'a dit d'accord, on va appeler le supérieur. Alors, il m'a mis dans une cellule, c'était un samedi, et dimanche, ils nous ont présenté au procureur.
Mmh.
Alors, j'ai expliqué mon cas
au procureur. Vous avez passé samedi-dimanche au poste, vous êtes resté au poste.
Samedi, j'ai passé dans le poste.
D'accord. Donc, vous avez eu un procureur, pas le supérieur, mais un procureur.
Oui, oui, le dimanche.
D'accord.
Ils nous ont présenté en différé.
D'accord.
Et puis on est sorti. Le procureur m'a dit bon, on va faire une enquête, on va suivre. Et vous connaissez les policiers ? J'ai dit oui, bien sûr, je connais les policiers. C'est 4 jeunes. Vous savez, quand ils ont la tenue, ils ont du zèle. Ils font du zèle.
Donc
et quand ils n'ont pas la tenue, ils baissent la tête. Bien sûr, on respecte la police. Moi, depuis 72, je n'ai jamais eu de problème. J'ai 10 enfants. Jamais de problème.
Et vous êtes sorti ensuite et ça s'est arrêté. Et votre ami aussi est sorti avec vous à ce moment-là.
Oui, il est sorti avec moi, Et ils ont réparé ses lunettes parce qu'ils étaient le verre cassé.
D'accord.
Et puis voilà.
Et vous n'avez, depuis, vous n'avez plus de problème avec la police, votre ami.
Moi, je n'ai jamais de problème avec la police.
Ce que vous dites, c'est que vous ne comprenez pas cette violence comme ça, gratuite, qui s'est passée.
Voilà, la violence. Pourquoi ils sont violents comme ça? On les respecte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tenue. Ils ont la tenue, ils font du zèle. Ils n'ont pas de formation, peut-être.
Alors justement, alors ça ce sont des incidents, enfin quand je dis incidents, c'est très mal ressenti et avec raison. Frédéric Charpier, on a parlé du tutoiement avec notre auditeur précédent. Est-ce que la tenue joue un rôle? Est-ce qu'il y a des gens qui se laissent aller et qui vraiment outrepassent effectivement leur fonction en l'occurrence?
Ben oui, ça peut arriver. Oui. Il y a des comportements qui ne sont pas normaux, c'est vrai. Cette violence gratuite, on l'aperçoit souvent dans les passages à tabac. Prend des fois des tournures. Surtout maintenant, c'est filmé, on les voit.
Ouais.
Pour les décortiquer, ça ressemble à rien. C'est invraisemblable. Qu'est-ce que c'est? En plus, ça ne sert à rien. Vous vous êtes défoulé. Et puis au final, il n'y a rien de plus, si ce n'est une procédure. Ouais. Et puis des attaques contre la police, parce que quelques-uns ont mordu le trait, parce que ça, il faut quand même préciser que c'est pas non plus un comportement qui est généralisé. La plupart des policiers sont corrects.
Absolument. Et on est bien d'accord. Non, et puis il y a aussi cette violence à sens unique, je voudrais dire à Oumine. Vous savez, quand on a reçu Abdoulaye Kanté, qui est un policier qui est noir, et quand il nous parlait que du matin au soir, il y a des gens qui viennent l'insulter en disant tu es un bounty, oui, tu es noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, et tu es un traître à la nation, ce qui est lamentable à ton peuple, ce qui est vraiment proprement lamentable puisque c'est raciste, c'est-à-dire qu'on le stigmatise en fonction de sa couleur de peau. Il y a ça aussi, il faut voir que c'est pas facile de tenir ses nerfs dans certains cas.
En plus de ça, les policiers, c'est des dragueurs.
Des graveurs.
Des dragueurs.
Ah, des dragueurs. Oui, il n'y a pas que qui sont des dragueurs, Oumide. Hein. Je ne veux pas du tout les défendre, mais il n'y a pas que. Merci en tout cas, Oumide.
La drague, ça c'est vraiment le,
le gros dragueur. Oui. Que celui qui n'a jamais dragué me jette la première pierre, c'est ça.
Merci, Oumide, de nous avoir appelés. Nous sommes maintenant très brièvement avec Anne-France de Montpellier. Très très brièvement, Anne-France, bonjour.
Anne-France, bonjour.
Oui, bonjour André Berkoff. Bon, écoutez, ce que je viens d'entendre, moi je suis un petit peu révoltée par le dire des gens, parce que initialement la police, la gendarmerie, c'est pour nous sécuriser, c'est pour que la population puisse vivre tranquillement. Mmh. On nous arrête. On présente nos papiers. Si on a fait une bêtise, si on n'a pas été dans les normes, on accepte, mais on n'insulte pas la police. Parce que la police reçoit quand même beaucoup d'insultes de la part des gens. Ils ne peuvent pas répondre. Et c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que les choses peuvent dévier vu
dégénérer.
Voilà. Donc, d'abord, la police est là pour nous. Pour toute la population. Donc, on la respecte, et puis après...
Comprends.
Si on respecte, ils nous respectent. Il n'y a pas de souci. Quand on voit la télévision, on les filme, on les... Attendez, c'est les traîner dans la boue. C'est... j'ai jamais eu de problème avec la police. J'ai quand même vu beaucoup de choses. Si les gens sont corrects, il n'y a pas de souci.
Merci, Marie-France.
Et taper sur la police comme on tape actuellement, et ben un jour il y aura d'autres gros problèmes. Et malheureusement, on y va droit.
On y est déjà. Mais effectivement, juste Frédéric Charpier, un dernier mot. Je recommande votre livre. Hein. Il faut vraiment auditeur de Sud Radio. C'est très intéressant de voir comment se passent les arcanes et raconter un certain nombre d'histoires vraies, d'histoires de faits. Juste Frédéric Charpier, est-ce qu'on va sortir un peu un séjour de ce malentendu permanent, en tout cas qui existe peut-être pas, et vous l'avez dit, ça ne concerne pas tout le monde, de loin de là, mais peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose.
Je crois que la police, et comme tout le monde, on est dans une mutation générale, et par exemple tous les nouveaux moyens de communication, tout ça, ça les perturbe aussi. Mmh. On est dans une civilisation qui change, et que faut tout le monde y retrouve ses marques. Et voilà, je sais pas, on en sortira forcément ou pas, mais de toute façon, on vivra avec, ça c'est clair. D'ailleurs, on a tous pris l'habitude de vivre avec le Covid.
Oui.
On peut vivre avec n'importe quoi. Et voilà, donc, grosso modo, bon, je suis optimiste. Ouais.
Très bien, mais nous aussi, on le sera. Merci.
Merci beaucoup. Et je rappelle le titre de votre livre, IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon, sous forme de questions évidemment, aux éditions Albin Michel. Merci Frédéric Charpier. Puis dans un instant, Brigitte Lahaye évoquera le sexe des femmes.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.